La fortune des filles, une nouvelle inédite de Dominique Mème pour le magazine Cui. En ce temps-là, les filles héritaient de terres incultes, infestées de moustiques en été et balayées par les vents l'hiver venu. C'étaient des hectares en bord de mer, des royaumes de sauvagerie abandonnés à celles qui n'avaient pas de mots pour se faire entendre. Le littoral était alors une ligne sans signe, parce que la mer, voyez-vous, ce n'était que pour les fuyards, pour ceux qui ne laissent pas de traces. Il y avait bien ces tours que Gênes avait postées aux quatre coins de l'île, mais elles n'étaient plus que de massives lettres de pierre qui ne transcrivaient plus rien, juste de grands yeux crevés sur le vide. Le destin avait ainsi doté Fiorellice à Léandre, fille de grand propriétaire du Sud, d'une grande parcelle de ses terres stériles. À sa mort, au tout début du XXe siècle, Fiorellice avait légué cette matte à sa fille Stella, qui à son tour n'avait eu qu'une seule enfant, Tiare. Ainsi, les habitudes successorales insulaires avaient été respectées. Ce qui ne valait rien allait à celle qui ne valait pas grand-chose. Et voilà comment Tiare, née au début des années 60, s'était retrouvée à la tête d'une petite fortune. Le monde avait changé au point d'effectuer un véritable renversement sur lui-même. Les terres de l'intérieur ne valaient plus un sou, tandis que le bord de mer se négociait à prix d'or. Et autour de ce génissé, des créatures rôdaient. Ce que les hommes avaient dédaigné par le passé était la richesse d'aujourd'hui. Et certains auraient bien vendu leur sexe au diable pour pouvoir en profiter. Aussi, Tiare, par le seul fait d'être née femme, avait mis à mal le pouvoir masculin, le pouvoir perdu de ceux qui regardent ce qu'ils n'auront pas. Et ne rien faisant, elle était devenue propriétaire d'un véritable Éden. L'Ourthe était maintenant vue comme une région splendide où les touristes affluaient en masse. Les terres de Tiare, à flanc de colline, plongeaient jusque sur les plages de sable blanc de Pedra Bianca et terminaient en mer. Le midi, le parfum jaune des genêts éclatait, les sentiers avaient l'odeur des figues mûres, lorsque les fruits d'août éclatent et la terre sèche se gorgeait de ce jus qui coulait comme une traînée d'or sur les pins. Rien n'était plus beau que ce lieu béni des femmes. À présent, Tiare était adolescente. Elle avait hérité de cette beauté née de la terre brute, éclose de ce jardin épargné des hommes. Elle était devenue cette jeune fille au caractère fort et enjoué qui venait à bout des plus sinistres. Elle avait alors pris pour habitude de flâner sur ses terres, promenant sa jeunesse comme promène un jeune chien fou. Elle passait des après-midi entiers sous les arbres à se faire des idées sur la vie. C'était des idées qui prenaient la forme de mal de voyage, des idées à étiquette et à wagon emplis de langues étrangères. Ses pensées étaient souvent interrompues par les garçons du village qui venaient la retrouver et la couvaient du regard. C'était le temps où les idées s'embrouillaient avec les premières amours et les mâles imaginaires tombés sous les baisers volés au-dessous des oliviers. Bientôt, elle eut 18 ans et bien décidée à partir. « J'étouffe, disait-elle, comme si chaque herbe du maquis pousse à l'intérieur de moi et prend toute ma place. » La veille de son anniversaire, elle avait pris un navire pour Marseille. À quai, elle s'était séparée d'un oncle vieillissant et de deux amoureux. Ces derniers l'avaient regardée, l'air contrit, comme s'excusant de ne pas la suivre, ou de ne pas en avoir le courage, et puis s'étaient repliés sur eux-mêmes comme fuyant le tumulte du sillage. Enfin, elle était revenue, d'abord une à deux fois l'an. Mais les baisers sous l'olivier s'étaient terminés. Durant les vacances d'hiver, elle passait beaucoup de temps au café du village à rire et à chanter. L'été, elle se promenait nue sur la plage déserte de Pedra Bianca et nageait comme une forcenée jusqu'au rocher des Mouettes. Souvent, elle était accompagnée d'une amie venue à la découverte de l'île et toutes deux se levaient tard, mangeaient, buvaient, riaient, leur peau huilée et les mains tendues vers l'eau. Tous voulaient alors se mêler à elle. Parfois, elle revenait avec un amoureux, un pantin, disaient les autres. C'étaient souvent des garçons bien élevés, blancs comme des cachets d'aspirine, et qui, après quelques jours passés sous le soleil de Pedra Bianca, viraient très vite aux rouges écrevisses. Ils avaient un accent épouvantable, trébuchaient sur les rochers, et Tiare finissait toujours par se moquer et se lasser d'eux. Les autres ne comprenaient pas pourquoi il y en avait toujours un qui revenait, un qui tentait sa chance à la suite d'une fille impossible à contenter. Ceux du village les entraînaient parfois à la chasse pour mieux les éprouver. Les coups de feu avaient souvent raison des plus téméraires. Ça la faisait mourir de rire. Puis l'été s'achevait par un orage éclatant et elle regagnait sa chambre continentale. Quelques années plus tard, elle était rentrée définitivement au pays. On devine que le mal qui ronge les insulaires avait commencé par l'attaquer, Mais la vérité était tout autre. Elle avait un projet. Lassée de voir ses terres abandonnées au pacage sauvage, les hommes s'étaient débrouillés pour en profiter d'une manière ou d'une autre, elle avait eu l'idée d'aménager le terrain et d'y construire une paillote, un lieu sans prétention, une construction de bois où l'on pouvait boire un verre et déjeuner d'une salade en contemplant la mer. Elle voulait maintenant une vie simple au bord de l'eau. C'était ça son bonheur. Elle avait démaquisé, amené un groupe électrogène, de l'eau et une route. Et maintenant, à la place de toute cette matière, on pouvait découvrir une bicoque multicolore tapissée de paréo avec une terrasse qui regardait l'horizon. L'endroit était devenu une adresse sympathique, plantée au cœur de la plage de Pedra Bianca. Avec sa détermination, Tiara avait construit deux petits bungalows adossés à la paillote. L'ameublement était sommaire, mais de petites palissades en bois flotté donnaient un caractère de bout du monde à ce lieu encore ignoré du béton. Durant toute la saison estivale, on se battait pour louer ces abris de Robinson. Bientôt, avec l'argent des étrangers venus se dorer la pilule au soleil, comme disaient les villageois, elle s'était acheté une voiture décapotable qui faisait rêver les enfants du village et sifflait les hommes sur son passage lorsqu'elle fonçait, tête au vent à grande vitesse, sur les routes sinueuses de la région. Quelle impression ça faisait! Les plus gentils disaient qu'elle avait le goût de la vie. Les jaloux disaient que l'argent de la paillote li kulawa nkabu. Tout le monde s'accordait à parler d'elle. « Quoi les ch'tadounes ?» demandaient les vieilles du village qui ne la reconnaissaient plus. « Unsizantebiu ?» disaient les plus jeunes. « Per quoi les ibia ?» Tiara s'en moquait. Lorsque certains venaient colporter des médisances, elle ne voulait pas en entendre parler. Elle continuait à foncer sur les routes, à boire des coups sur la terrasse de sa bicoque et à fumer des cigarios à la tombée de la nuit. Le jour, elle redoublait d'ardeur. Elle accueillait les touristes, blaguait volontiers avec eux, leur conseillait des promenades et les captivait par sa cuisine et son entrain. Ils étaient tous fous d'elle. Pourtant, Tiara restait célibataire. On disait alors qu'elle aimait les femmes et que c'est pour ça qu'on la voyait toujours seule. On disait tant de choses. Elle était chargée d'or et de vices. Cette terre qu'elle avait fui un temps lui rapportait tant qu'elle pouvait se permettre de vivre tout le reste de l'année sur le continent ou même à l'étranger. Et aller savoir ce qu'elle y faisait sur le continent. On lui prêtait des voyages insensés, on l'avait vue jusqu'en Amérique. Ça la faisait toujours sourire. Ses terres étaient dominées par celles de Pierre Streg, un ancien flirt qui aurait bien aimé prolonger son domaine jusque sur le bord de cette mer et pourquoi pas jusque sur le corps de Tiara. Pierre venait souvent avec ses amis faire bon danse à la paillote. Il y laissait beaucoup d'argent et ne manquait pas de la complimenter sur ses installations. Un soir, il avait fait glisser sa main le long du dos nu de Tiara, alors qu'elle servait ses fameux beignets d'herbe sauvage, et elle n'avait pas du tout aimé ça. Aussitôt, elle lui avait pris la main pour la plonger dans ses beignets brûlants. Il avait fait une grimace, un imperceptible rictus passé inaperçu chez ses compagnons de table, mais qui était resté gravé dans sa mémoire. Tiara venait de commettre une faute, et cette faute fit du chemin. Elle traversa la colline, parcourut quelques kilomètres de route en terre, et finalement parvint jusqu'au village. Pierre avait juste glissé dans l'imagination populaire un « ce n'est pas très joli ce qui se passe en bas ». Cela avait suffi à embraser les esprits. Au café de la place où d'anciens amoureux et conduits avalaient des ballons de rancœur, on disait qu'elle avait perdu le sens des valeurs, cette petite putain, qui non contente de louer des lits aux Pinsoudi ou aux Stranir, en profitait pour détruire la réputation du village et même la Corse tout entière. Si on la laissait faire, bientôt il y aurait un centre de vacances et une plage privée, où les jeunes du village ne pourraient plus mettre les pieds. Naturellement, les femmes profitaient de la curée. Contraintes à la vertu et folles de jalousie, elles étaient complices des hommes. Ceux-là, au fond, n'en avaient rien à faire, tant ils auraient préféré être auprès de Tiara. Mais ils appréciaient cette solidarité féminine qui innocentait leurs pensées secrètes. Le prénom de Tiara était sur toutes les bouches, faute de Tiara elle-même. Tous la condamnaient. L'été achevé, elle ne se soucia pas des méchantes rayures sur la carrosserie de sa voiture. Le vent ne tarda pas à lever la mer chargée de mauvaises humeurs et finit par chasser les derniers vacanciers. La paillote avait des allures de cabane abandonnée et le sable rejetait des arrosoirs d'enfants, des pelles et des sons rongés par le sel. Après les derniers préparatifs de fermeture, Tiara s'envola pour l'Allemagne. « In due sarà, mes HM ?» disaient les vieilles du village en refermant leurs volets sur l'été. Puis les volets s'étaient rouverts. C'était le printemps. Elle revenait. Cette fois-ci, elle était changée. Un bourgeon s'était développé dans son ventre, mais toujours sans tuteur. Tôt ou tard, il faudra aussi compter avec lui. Il n'y avait plus de temps à perdre. Un matin, Pierre se présenta à elle, prétextant une urgence. Ce jour-là, encore surpris par sa beauté, il n'avait pu s'empêcher de lui dire « Tu es toujours aussi belle. » « Et toi, toujours un beau parleur, ou mauvais, ça dépend. » avait-elle ajouté, le fixant droit dans les yeux. « Non, non, je le pense, vraiment. Mais on peut s'asseoir ?» avait-il poursuivi. « Bien sûr, mais je n'aurai pas beaucoup de temps à t'accorder. » « Tu auras bien 15 minutes pour un amour de jeunesse. Je ne te cache pas que tu fais des envieux. La paillote commence à avoir du succès, et puis tu es toute seule. Tu devrais penser à te faire aider. Je ne serai bientôt plus seule, » dit-elle, montrant fièrement son ventre. « Je crois que tu n'as pas bien compris, Tiara. Je peux être à tes côtés. » Elle avait soudain pâli. Tout à coup, elle s'était rappelé les histoires de rackets qui circulaient dans la région et toutes les menaces assorties de violences subies par certains commerçants. Ceux qu'on avait ligotés une nuit entière, celui qui avait reçu une balle dans la tête... Non, ça n'arrivait pas qu'aux autres. C'était l'unique chose qui lui avait traversé l'esprit avec une violence peu commune. Elles étaient alors mises à hurler. « Si je comprends bien, tu viens me faire chanter. » « Tu veux que je te dise, Pierre, tu me dégoûtes. C'est ça que tu appelles un amour de jeunesse ?» Elle s'était aussitôt redressée et l'avait plantée là, sans lui laisser le temps de rétorquer quoi que ce soit. À petite gorgée, Pierre avait terminé son café et était reparti sans chercher à la rattraper. Était-il possible que les choses tournent aussi mal ? Elle venait de se rappeler les paroles de son oncle qui l'avait mise en garde et était en proie à la panique. Non, il ne fallait pas céder à la peur et au chantage. Voilà ce qu'il lui avait dit. Tiara se refusait à comprendre pourquoi et comment elle pouvait engendrer tant de haine. Durant toute cette journée, elle resta inquiète et une impression de désastre s'installa dans son cœur. Les jours suivants, elle prit soin d'éviter le sujet et de chasser l'angoisse qui nichait au plus profond d'elle. Au bout d'une quinzaine de jours, alors qu'elle était sur la terrasse, une explosion retentit et secoua du sol au plafond la bicoque et les deux bungalows. Un silence inquiétant suivit. Et une lumière inhabituelle monta du parking. La décapotable était en flammes. Une fois le feu maîtrisé, il fallut transporter Tiara à l'hôpital. Elle venait de perdre les os. Un hélicoptère était venu la chercher. Il fallait faire vite. Elle était en avance de 2 mois et demi sur le terme. C'est le choc, avait dit le médecin. Le vieil oncle avait accouru. Il n'arrêtait pas de se frapper la poitrine en invoquant la grâce de Dieu, et c'est finalement le médecin qui avait réussi à le calmer. Le coup porté avait été tel que Tiara avait accouché d'un prématuré. Absente de Pedra Bianca un bon mois, c'est l'oncle Hyacinthe qui avait géré la paillote jusqu'à sa fermeture. La nuit, Ziou Hyacinthe surveillait les allées venues sur la plage. En dehors de quelques couples venus se cacher de la lumière, il n'y avait rien de suspect. Bientôt de gros nuages chassèrent les étoiles et la plage fut abandonnée au saut des enfants oublieux. Tiara revint à Pedra Bianca. C'était la fin du mois d'août. Quelques vacanciers tardaient à partir, prolongeant le dernier goût de l'été en croquant des figues éclatées de soleil et des vers d'anisette. Un de ces derniers soirs, un jeune homme était arrivé. C'était un proche de Pierre Streig. Il avait une proposition à faire, un arrangement qui allait lui plaire, c'était certain. Elle avait un fils à élever maintenant. Il serait à l'abri de la misère, il fallait qu'elle se comporte comme une mère. « Il a toujours été très amoureux de toi, » répétait-il nerveusement. Cette histoire l'a beaucoup peiné. Le message était passé avec la dernière lune pleine et Tiara n'avait pas dormi la nuit. Le matin, elle avait fait comme à son habitude. Les petits déjeuners servis, elle s'était activée dans les chambres. Il n'y a qu'au moment de la sieste où elle avait disparu, revenant seulement pour la préparation du dîner. Quelques jours étaient passés, mais une date restait figée en elle, comme un clou sur la croix du supplicié. C'était le 14 septembre, le jour de l'exaltation de la Sainte Croix. Ce fameux jour, le ciel était dégagé. C'était un ciel maigre de fin de saison qui laissait voir clairement la piste qui remontait jusqu'à la nationale et au village. Il était presque midi quand Tiara informa le dernier couple de vacanciers installés sur la terrasse de rejoindre l'embarcation qu'elle avait louée pour eux. À midi, le couple s'était éloigné sur l'eau tandis que sur la piste, un nuage de fumée se déplaçait à vive allure à la suite de l'énorme 4x4 de Pierre. Il descendait. Plus rapide que l'éclair, Tiara s'était emparée des bidons d'essence qu'elle avait achetés et cachés depuis 2 semaines. Et alors que le véhicule descendait toujours et prenait le dernier virage avant la plage, la paillole s'embrasa, les bungalows suivirent. Maintenant, la plage n'était plus qu'un gigantesque brasier. Pierre, affolé, s'était mis à courir pour éteindre le feu, mais il était trop tard. Les installations n'étaient plus que des flammes qui montaient haut vers le village. Tiara, sur l'un des rochers au bord de l'eau, contemplait follement le désastre. Il s'était alors précipité vers elle et elle l'avait arrêté en lui faisant signe de poser sa main sur la pierre. Sens-tu maintenant la chaleur de ces rochers ? Il n'avait rien dit. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux flammes ? Le lendemain, Thiers avait quitté l'île avec son enfant. Je ne sais pas si je veux que mon garçon soit élevé ici. Je préfère retourner sur le continent ou même à l'étranger. J'attends les résultats de l'enquête, mais je sais, répétait-elle sans cesse, je sais. Il y eut comme toujours un communiqué de presse condamnant l'acte odieux et lâche. Nombreuses furent les personnes qui lui témoignèrent soutien. Pierre lui-même se présenta, mais elle ne le reçut pas. Juste avant de partir, elle confia ses doutes à son oncle. Dans le village, on commença à regarder Pierre d'une drôle de façon. Qu'est-ce que vaut un homme qui s'en prend à une femme ? À Berlin, où Thiers a passé l'hiver, elle reprit des forces. Un beau jour, elle reçut le rapport de police d'Ajaccio. Ses doigts engourdis par la peur, elle déplia lentement la lettre et entama la lecture. L'enquête a démontré que l'incendie de la Golf Cabriolet de type Sportline, immatriculée 1169XS2A, appartenant à Madame Thiers Léandre, domiciliée à Chemin de Pédrabianque, 22600 à Maudelourtes, a été causée par l'usure du tuyau d'essence. C'est l'essence qui, coûtant sur le collecteur d'échappement bien chaud, a ainsi causé l'embrasement accidentel du véhicule. Thiers eut une brève hésitation avant de jeter la lettre aux ordures. Elle regarda longuement la boule de papier au fond de la poubelle. Elle se disait qu'elle devrait peut-être la brûler. Ses mains tremblaient tandis qu'elle percevait le souffle régulier de son enfant qui dormait dans la petite chambre d'à côté. Elle revoyait le visage de Pierre, le feu au-dessus de la mer au moment de l'incident et continuait à fixer la boule froissée qui se dépliait tout doucement sous elle, comme une étoile sous ses yeux inquiets. Elle n'en finissait pas de se déplier cette satanée feuille de papier. Elle se déployait littéralement en elle. Elle la forçait à se lire. Il ne lui était jamais venu à l'idée qu'elle pouvait se tromper, qu'elle avait mal interprété les paroles de Pierre, et finalement que la sauvagerie était aussi en elle. Mais qu'est-ce qu'on comprenait à la sauvagerie ? La fortune des filles, une nouvelle inédite de Dominique Memmi pour le magazine Cui, lue par Léa et Ouzampierre. Montage et mixage par Jean-Christophe Attard et Amélie Samartieli pour l'agence Totem.